journal, Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Gérard Depardieu bientôt devant la justice. Le célèbre acteur sera jugé en octobre pour agression sexuelle. Nous ferons le point dans un instant.
Sénateurs et députés se réunissent en commission mixte paritaire. Au menu, la proposition de loi sur la confiscation des avoirs criminels. Éric Dupond-Moretti veut frapper les délinquants au portefeuille.
Un bras de fer entre Dublin et Londres. L'Irlande veut renvoyer des migrants au Royaume-Uni.
Reportage au Kenya où de fortes pluies ont provoqué l'effondrement d'une retenue d'eau. Bilan, au moins 46 morts.
Des plateaux de cinéma au tribunal correctionnel. Gérard Depardieu sera jugé en octobre à Paris pour agression sexuelle sur deux femmes. L'acteur avait été convoqué hier pour être entendu en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire. Bonjour Mathieu Laurent.
Bonjour.
On fait le point en direct avec vous sur cette affaire. Il est donc question de deux femmes. Elles dénoncent des faits qui se seraient produits pendant le tournage du film Les Volets Verts en 2021.
Amélie, décoratrice de 53 ans, a porté plainte le 23 février pour des faits d'agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrage sexiste qui auraient eu lieu sur le tournage du film de Jean Becker. Sur le plateau, l'acteur aurait tenu des propos graveleux, puis plus tard l'aurait attrapé avec brutalité. Je cite, elle essaie de se dégager en vain. Fin de l'intervention grâce à des gardes du corps du comédien. La deuxième plainte qui conduira l'acteur au tribunal a été déposée sur ce même tournage par Sarah, troisième assistante réalisatrice, qui l'accuse de lui avoir touché la poitrine et les fesses à plusieurs reprises. Maître Karine Durieux-Diebold est l'avocate des deux plaignantes.
Il y a eu une enquête qui a été menée suite à leur déposition, à leur déclaration. Donc, c'est ce qui s'est passé juste avant la confrontation d'hier, c'est-à-dire qu'il y a des témoins qui ont été entendus, il y a eu des expertises psychologiques et il y a eu des confrontations. Et c'est à l'issue de cette enquête préliminaire que le procureur de la République a décidé qu'il avait suffisamment d'éléments pour le renvoyer en vue d'un procès devant le tribunal correctionnel en octobre.
L'un des avocats de Gérard Depardieu a commenté de la sorte. La garde à vue d'hier, c'était l'une de ces journées où il faut s'expliquer sur les accusations portées contre vous et que vous contestez. Fin de citation. Une troisième plainte a été déposée également pour agression sexuelle en 2014, cette fois sur le tournage du film de Jean-Pierre Mocky, Le magicien et les Siamois. La plaignante, alors âgée de 24 ans, souhaite rester anonyme.
Gérard Depardieu qui fait l'objet de plusieurs procédures judiciaire, Mathieu.
Oui, l'acteur fait désormais l'objet de 5 plaintes pour agression sexuelle, d'une mise en examen pour viol et agression sexuelle depuis 2020 sur la comédienne Charlotte Arnoux en France. L'instruction serait terminée depuis le 17 avril. Rappelons enfin qu'en décembre dernier, une cinquantaine de personnalités appelaient, je cite, à ne pas effacer le comédien, à arrêter le lynchage. 8000 artistes avaient aussitôt rétorqué qu'il ne fallait pas oublier les nombreuses victimes présumées de Gérard Depardieu.
Les précisions de Mathieu Laurent. Arnaud Lagardère est mis en examen pour diffusion d'informations fausses ou trompeuses, achat de votes, abus de biens sociaux, abus de pouvoir et non-dépôt de comptes. Le PDG du groupe qui porte son nom est soupçonné d'avoir puisé dans les comptes de ses sociétés pour financer son train de vie et ses dépenses personnelles pendant plusieurs années. Une proposition de loi sur la confiscation des avoirs criminels sera étudiée aujourd'hui en commission mixte paritaire par des sénateurs et des députés, avec l'objectif de s'accorder sur les derniers points techniques du texte du député Liotte, Jean-Luc Warsmann. Et alors que le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, vient d'annoncer toute une série de mesures pour lutter contre la criminalité organisée, cette peine complémentaire est très redoutée par les trafiquants de drogue notamment. Une petite révolution est en marche, Anne Fauquemberg.
La proposition de loi pour améliorer la gestion des biens saisis ou confisqués rend obligatoire la confiscation des biens reliés à l'infraction en cas de condamnation. Cela va changer les réflexes des professionnels, policiers et magistrats. Il faudra par exemple ouvrir systématiquement des enquêtes patrimoniales dès le début de la procédure. Une politique qui s'appuiera sur l'AGRASC, l'agence spécialisée en matière de biens saisis ou confisqués, poursuit le député Jean-Luc Warsmann.
L'idée, c'est bien qu'on entraîne la répression de la délinquance dans tout le pays comme ça. Et l'agence que l'on a à Paris, qui gère tous ces biens saisis puis confisqués, elle ouvre maintenant des antennes en province pour que les juges ou les policiers aient des référents pour les former et puis pour les renseigner s'il y a des doutes juridiques ou des doutes sur les manières de faire.
Autre nouveauté, le texte encourage la possibilité de réaffectation des biens confisqués aux services de police et de justice, explique Fabrice Risoli. Le président de l'association Crime Halt milite depuis plusieurs années pour ce type d'évolution.
C'est un dispositif qui nous vient d'Italie, qui existe depuis 1996, où de nombreux commissariats, mais aussi tribunaux, mais aussi casernes de gendarmes, sont dans des biens confisqués à la mafia, ce qui restaure l'état de droit et qui montre aux citoyens que avant ce qui était la mafia, aujourd'hui c'est de l'intérêt général et en particulier aux services d'enquête.
En 2023, le montant des saisies pénales a dépassé pour la première fois le milliard d'euros. Ce texte de loi va permettre d'asseoir cette dynamique, toujours en redistribuant les sommes récoltées à la société.
Anne Fauquemberg, le produit intérieur brut de la France a progressé de 0,2% au premier trimestre cette année, soutenu par la consommation des ménages et les investissements des entreprises, annonce l'INSEE ce matin. C'est la première estimation publiée pour cette période par l'Institut National de la Statistique. Il avait précédemment annoncé une prévision inférieure d'une croissance nulle entre janvier et mars. Avant les européennes du 9 juin, Marie Toussaint présente son programme ce matin. L'eurodéputée et tête de liste des écologistes garde espoir, même si elle peine encore à faire décoller sa campagne. Elle ne sera pas la seule candidate écologiste sur la ligne de départ. Parmi les listes moins exposées, plusieurs revendiquent le créneau, Rosalie Lafarge.
Pour tous ces candidats, l'enjeu c'est d'abord de marquer leur différence avec la tête de liste, les écologistes Marie Toussaint, trop à gauche pour Jean-Marc Governatori. Les Lunissois portent les couleurs de l'écologie au centre.
Tout le monde est écologiste. Simplement, Europe Écologie a dégoûté les Français de l'écologie avec leur prise de position débile. Donc quand les Français apprennent qu'il y a enfin une liste d'écologistes centristes, ils sont enthousiastes parce que les Français ne demandent qu'à voter écologiste.
Trop radical pour lui, pas assez pour Marine Chollet, porte-parole et tête de liste du jeune parti Equinox, qui a décidé de se lancer lui aussi seul dans l'aventure européenne.
On ne trouvait pas le pragmatisme dans d'autres partis. Et effectivement, ça a été une vraie réflexion en interne. Que fait-on? Comment pouvons-nous être le plus utile? C'est un choix qui est fait de donner toute notre énergie pour construire un projet cohérent qui porte la convivialité, la sobriété et l'engagement et qui réponde aux enjeux de notre génération.
Des enjeux qui dépassent la seule écologie pour le président du think tank Les Écologistes, qui défend l'idée d'une Europe souveraine, Antonin Duarte.
Le pilier écologiste n'est pas le seul pilier, notre seule ambition, parce que justement on veut faire sortir l'écologie du ghetto de l'écologie politique. Si vous parlez qu'aux électeurs déjà convaincus qu'il faut mettre un bulletin vert dans les urnes, on perdra collectivement.
Et si l'accumulation des listes est peut-être elle aussi de nature à faire perdre les uns et les autres, elle est pourtant pleinement justifiée d'après Yann Verling à la tête de la liste dite non radicale, écologie positive et territoire.
C'est pas l'élection qui nécessite le plus de rassemblement parce qu'il n'y a pas d'enjeu de vote utile, ce genre de choses, toutes ces bêtises qu'on entend en ce moment. Non, c'est une élection à la proportionnelle intégrale avec un seul tour. C'est l'occasion ou jamais d'affirmer quelques nuances et quelques différences.
Avec le risque que pour chacune de ces listes de n'atteindre ni les 5% nécessaires pour décrocher des sièges, ni même les 3% requis pour être remboursé des frais de campagne.
Faire de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture des activités d'intérêt général majeur. C'est l'objectif du projet de loi pour la souveraineté agricole, débattu à partir d'aujourd'hui en commission à l'Assemblée. Il doit notamment accélérer les constructions de réserves d'eau et simplifier certaines normes environnementales. Autre volet, la transmission et le renouvellement des exploitations. Alors que la moitié des agriculteurs vont prendre leur retraite d'ici 2030, mesure très attendue par les syndicats, Thomas Pinaroli.
Principale mesure inscrite dans le projet de loi, la création d'un réseau de guichets uniques, France Service Agriculture. Il y en aurait un dans chaque département pour faciliter les démarches de transmission et d'installation. Une bonne idée pour Julien Rouget, élu au Bureau National des Jeunes Agriculteurs.
Aujourd'hui, on avait beaucoup de travail en silo, chambre d'agriculture, SAFER, réseau CIVAM, terre de lien.
Ces guichets uniques devraient aussi recenser les agriculteurs qui partent à la retraite dans les 5 prochaines années. Ça permettrait d'anticiper au maximum la transmission avec un jeune repreneur et de mener un diagnostic sur l'exploitation.
L'idée, c'est d'avoir, notamment pour nous, jeunes agriculteurs, un module sur la partie financière à proprement parler de l'évaluation de l'entreprise et un module plus social de temps de travail, de relations avec les associés, avec les salariés.
Des formations nécessaires car la transmission familiale se fait de plus en plus rare au profit de nouveaux propriétaires, des propriétaires qui ont souvent du mal à acheter les terrains. Pour les syndicats, c'est l'angle mort du projet de loi.
Effectivement, on parle beaucoup de renouvellement des générations et on parle peu ou pas de foncier. Donc là, c'est un gros manque.
Ils aimeraient que l'État paye une partie des terrains.
Pour permettre à ceux qui s'installent de pouvoir moins dépenser au moment de l'installation et peut-être in fine, après, racheter l'ensemble du foncier dans une dizaine d'années ou plus.
Il y a bien une mesure foncière dans le projet de loi, les groupements fonciers agricoles d'investissement. Ça doit permettre à des fonds d'investissement d'acquérir un terrain avec une fiscalité favorable, puis d'y installer un agriculteur exploitant. Mais la mesure fait craindre à certains une hausse du prix des terres agricoles.
Pas d'écran pour les moins de 3 ans, pas de téléphone portable avant 11 ans, puis un accès très limité les années suivantes. Voilà quelques-unes des préconisations dans un rapport d'experts remis aujourd'hui au président Emmanuel Macron. La commission spécialement missionnée par l'exécutif alerte sur la réalité de l'hyperconnexion subie des enfants et les conséquences pour leur santé. Tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies, la région Île-de-France suspend ses financements à destination de Sciences Po. C'est ce qu'a annoncé hier la présidente LR, Valérie Pécresse. Une mobilisation pro-palestinienne a eu lieu vendredi dernier dans la prestigieuse école. L'université de Columbia à New York, d'où est parti un mouvement pro-palestinien sur les campus américains, a commencé hier à sanctionner des étudiants qui refusent de quitter, sauf par la force, un campement installé depuis 10 jours. Au bout de presque 7 mois de guerre entre le Hamas et Israël à Gaza, le mouvement islamiste prépare de son côté sa réponse à une offre de trêve dans l'enclave assiégée.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. À cause de fortes pluies, une retenue d'eau a cédé au Kenya.
Au moins 46 personnes sont mortes dans la nuit de dimanche à lundi à Mai Mayu, à une 60aine de kilomètres au nord de la capitale Nairobi. Cette tragédie porte à plus de 120 morts le bilan de la saison des pluies, commencée en mars et amplifiée par le phénomène climatique El Niño. À Mai Mayu, le glissement a déversé les eaux sur le village en contrebas, entraînant habitants, maisons et bétail. Sur place, le reportage d'Alban Tiroir.
Dans ce village, près de Mai Mayu, la coulée d'eau a tout emporté sur son chemin. Une voiture a été projetée dans un arbre où se trouvaient des maisons, des fermes. Il n'y a plus que des coulées de boue. Clément Toutachiri vivait ici avec sa mère et son frère.
The noise, people screaming, are the one who made me wake up.
J'ai été réveillé par le bruit et les voisins qui criaient. J'ai ouvert la porte et j'ai vu des vagues plus hautes qu'un camion. C'était impossible de sortir. Alors nous sommes montés sur le toit et c'est là que nous avons été secourus. Notre maison a été complètement emportée par les eaux. Mes poulets et mes chèvres aussi. Je n'avais jamais vu ça ici.
La Croix-Rouge kényane a installé un lieu d'accueil dans une école à proximité. Des familles font la queue pour avoir des nouvelles de leurs proches portés disparus. D'autres sont venus trouver refuge pour la nuit. Véronica Moussoni a 17 ans. Elle est ici avec son père.
Nous n'avons nulle part où aller car notre maison a été emportée. On nous a dit que nous pouvions venir dormir ici. Nous n'avons nulle part où aller car notre maison a été emportée. On nous a dit que nous pouvions venir dormir ici. On cherchait aussi mon petit frère. On ne l'a pas trouvé dans les hôpitaux. Mais nous venons à l'instant de recevoir un message nous informant qu'il était à la morgue.
La pluie rend les recherches difficiles, explique Joe Mbalu, secrétaire général adjoint de la Croix-Rouge Kenya.
Nous ne pouvons pas utiliser de machines car les sols sont trop inondés. Donc c'est un travail terriblement lent. Il faut fouiller parmi les débris avec les mains en longeant le lieu du sinistre.
À travers le Kenya, plus de 130 000 personnes ont été déplacées à cause des récentes pluies diluviennes, selon les autorités. La rentrée scolaire, qui devait avoir lieu hier, a été repoussée à lundi prochain.
Alban Tiroir. L'Irlande veut renvoyer des migrants vers le Royaume-Uni. Une solution radicale étudiée par le gouvernement irlandais. Dublin estime que 80% des arrivées récentes d'étrangers en situation irrégulière se font via la frontière nord-irlandaise, donc le Royaume-Uni. Et ce dernier vient de durcir sa position vis-à-vis des immigrés illégaux. Richard Place.
Cette colère irlandaise ravit le gouvernement britannique. Elle est la parfaite illustration de ce que voulait Rishi Sunak quand il a fait voter la loi Rwanda la semaine dernière. Renvoyer des immigrés illégaux en Afrique pour dissuader les autres de venir au Royaume-Uni. Simon Martin, le Premier ministre irlandais, ne veut pas en rester là.
Je n'ai certainement pas l'intention de laisser la politique migratoire d'un autre pays nous affecter. Nous n'offrirons en aucun cas une échappatoire aux défis migratoires d'un autre. C'est très clair.
Il veut donc faire passer une nouvelle loi en urgence pour renvoyer ces visiteurs jugés indésirables chez les Britanniques. Hors de question, répond Londres, et sur ITV, le Premier ministre Rishi Sunak se fait un plaisir d'utiliser les mêmes arguments que l'Union européenne.
Ça ne m'intéresse pas. Nous n'allons pas accepter des retours de l'UE via l'Irlande alors que l'Europe n'accepte pas les renvois vers la France, d'où viennent les migrants illégaux. Bien sûr, nous n'allons pas faire ça.
Une réunion à Londres sur cette question précise entre ministres des deux pays était prévue hier. Elle a finalement été annulée officiellement à cause d'agendas incompatibles. Et Sunak maintient que le premier vol pour le Rwanda décollera au mois de juillet.
Un accrochage de plus en mer de Chine méridionale. Les Philippines accusent ce matin les gardes-côtes chinois d'avoir tiré au canon à eau sur deux de leurs navires et de bloquer l'accès à un récif disputé. Pékin confirme avoir repoussé ses bateaux dans cette zone commerciale et stratégique. Du soleil est attendu aujourd'hui en France sur la façade atlantique. Le temps sinon sera gris, parfois pluvieux sur la plupart du pays. Les températures cet après-midi, 16 degrés à Toulouse, 17 à Paris, 18 à Rennes et La Rochelle. 24 à Strasbourg.